France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver. Merci d'avoir choisi France Musique, deuxième volet de notre série d'émissions réalisée en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale et le Van Beethoven. Deuxième volet au cours duquel j'ai le grand plaisir de recevoir Christophe André. Bonjour Christophe André.
Bonjour.
Merci beaucoup de passer cette heure avec nous sur France Musique. Christophe André, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, spécialiste des troubles anxieux et dépressifs. Vous êtes l'un des premiers à avoir introduit la méditation en psychothérapie. Des sujets que nous allons développer au cours de cette émission. On va aussi s'intéresser au cas d'un compositeur, Beethoven, dont nous célébrons le 250e anniversaire de la naissance en décembre prochain. Beethoven, ce créateur de génie, les différents témoignages que nous possédons sur sa vie nous montrent qu'il était en perpétuelle quête de bonheur dès sa jeunesse à Bonn, sa ville natale. Il pensait à mettre en musique l'Ode à la joie, ce poème de Friedrich von Schiller, écrit en 1785. « Tous les hommes deviennent frères », nous dit le vers le plus célèbre de ce poème que Beethoven va utiliser dans sa 9e symphonie, qui deviendra l'hymne européen. Christophe André, cette aspiration qu'avait Beethoven, cette aspiration au bonheur en quelque sorte, est-ce qu'elle ne fait pas écho à votre propre quête, à votre propre aspiration ?
Oh, ma propre quête, ce n'est pas forcément la plus intéressante, mais elle fait écho à la quête de tout être humain. C'est-à-dire, évidemment, chaque humain aspire au bonheur. Il n'existe aucune personne qui se réveille le matin en se disant « pourvu qu'aujourd'hui je souffre, pourvu que je sois malheureux ou malheureuse ». On aspire tous de manière plus ou moins consciente, de manière plus ou moins explicite et de manière plus ou moins assumée au bonheur. Les humains sont faits pour le bonheur, en quelque sorte, et c'est vrai que Beethoven, et en tout cas son époque, n'avait pas peur de l'affirmer, n'avait pas peur de... les artistes, en tout cas, ne craignaient pas de porter haut et fort leur désir de rendre les autres humains heureux. On retrouve ça à la fin, plutôt vers la fin du 19e, chez Van Gogh aussi, dont la correspondance montre qu'il aspirait à transmettre le bonheur, il aspirait à l'être aussi, mais pour cela il était moins habile, disons. Et on retrouve ça chez Beethoven, et c'est un côté très émouvant de sa personnalité, et très méconnu aussi.
Et un autre côté très émouvant, Friedrich von Schiller, dans son poème, mis en musique par Beethoven, donc, entretient en quelque sorte le rêve d'un homme rendu meilleur par l'éducation esthétique. Christophe André, pensez-vous que l'art puisse être une voie pour une vie plus heureuse, plus épanouie ?
Alors, certainement, les preuves sont à chercher, par exemple, et on a des données du côté de la psychologie des émotions. On sait, par exemple, que lorsque nous sommes déchirés par des émotions douloureuses, l'art peut être un apaisement. Ou peut-être chez les créateurs, parce qu'il y a l'art évidemment dont on bénéficie, l'art qui a été créé par les autres, le fait de lire, d'écouter, de regarder des œuvres artistiques nous fait du bien, mais il y a aussi évidemment chez des gens comme Beethoven la possibilité de fabriquer, de créer, de faire naître des œuvres artistiques, et chez eux aussi on sait que la créativité, la création a un effet de résolution, d'apaisement relatif, malheureusement ou heureusement pour nous et malheureusement pour eux, des souffrances, des tensions et des émotions douloureuses.
On va écouter une œuvre de Beethoven pour commencer cette émission. Je m'excuse déjà, vous m'avez dit que Beethoven n'était pas votre compositeur de chevet, Christophe André. Mais voilà, on célèbre sa naissance dans cette émission. On va commencer donc cette émission avec une œuvre lumineuse, sautillante, qui rend particulièrement heureuse, je trouve. Vous nous direz peut-être votre sentiment juste après, Christophe André, si vous le voulez bien. Voici le final de la deuxième symphonie en ré majeur de Beethoven.
Thank you.
L'orchestre de Philadelphie dirigé par Riccardo Muti dans le final de la deuxième symphonie en ré majeur de Beethoven. Un final particulièrement enjoué, animé, avec une pointe d'humour peut-être. Christophe André, quelles sont les émotions qui vous traversent quand vous écoutez cette œuvre ?
Ah mais beaucoup d'émotions, là vous disiez tout à l'heure, c'était pas mon compositeur favori, mais en tout cas je reconnais à Beethoven cette force et cette énergie incroyable. C'est-à-dire lorsqu'on écoute une œuvre de Beethoven, on est forcément amené à le suivre là où il veut nous amener. C'est-à-dire c'est un compositeur qui induit des émotions très fortes, mais c'est d'ailleurs un peu ça qui me gêne, comme tous les anxieux hypersensibles. J'aime pas être trop secoué. Et Beethoven, écoutez la musique de Beethoven, c'est comme parler avec quelqu'un qui est très convaincant, qui vous prend par les épaules, qui vous secoue, qui vous montre ce qu'il veut que vous compreniez. Et on est obligé de dire oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et voilà, mais c'est magnifique. Là, ce qu'on vient d'écouter, ça donne une énergie, une pêche, une envie de vivre incroyable.
Une envie de vivre. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que c'est une œuvre qui a été composée pendant une période particulièrement tourmentée. Nous sommes en 1802, Beethoven rédige son testament d'Heiligenstadt. Heiligenstadt, c'est un petit village qui se trouve dans la banlieue de Vienne. Dans sa lettre, Beethoven s'adresse à ses frères. Il leur parle de sa surdité naissante. Il évoque aussi l'éventualité de mettre fin à ses jours. Christophe André, comment Beethoven, cet artiste qui était en souffrance, pouvait-il être en mesure de créer une œuvre aussi joviale, d'après vous ?
Alors ça c'est vrai que c'est incroyable parce que ce testament est bouleversant de tristesse, de solitude, de désespoir. Mais vous savez, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je crois que l'art pour Beethoven, la musique, la créativité a joué un rôle profondément curatif, profondément réparateur, profondément salvateur même. Et dans sa correspondance, il écrit assez souvent que finalement, il ne se sent jamais mieux que lorsqu'il compose et que lorsqu'il compose ou lorsqu'il joue, c'est là qu'il oublie sa surdité. Mmh. Et sinon, dans le reste de ses rapports avec le monde, avec la vie, avec les autres humains, elle se rappelle à lui sans arrêt. Et donc, je crois que... Et puis en plus, autre chose, malheureusement pour lui, Beethoven était habitué au malheur depuis son plus jeune âge. Mmh. Il a eu une enfance très douloureuse, un père violent, enfin toutes ces choses qu'on connaît, que ses biographes nous ont racontées. Et donc, hélas, il avait sans doute une forme de résilience au malheur qu'il avait appris à surmonter grâce à la musique. Et je crois que peut-être même que plus il souffrait, plus il composait des œuvres destinées à rendre les autres humains heureux, puisque c'était aussi quelque chose d'important pour lui.
Bien sûr, et autrement dit, Christophe André, la souffrance de Beethoven aurait pu stimuler sa créativité, en quelque sorte.
Sans doute. Oh, ben, si elle ne l'avait pas stimulée, on ne voit pas très bien d'où cette créativité aurait pu jaillir. Alors, vous savez, après, il y a tout un tas de travaux mots, sur les émotions et la créativité, qui tendent à montrer le contraire, qui tendent à montrer que finalement les émotions positives, agréables, nous rendent plus créatifs. Mais je crois que ça ne concerne que les humains ordinaires. Et Beethoven, clairement, n'est pas un humain ordinaire. Il est quand même dans la catégorie des personnes, des grands génies, quoi, qui sont... C'est pas vouloir trop le mettre sur un piédestal que de dire ça, mais je pense quand même qu'il avait une vigueur, une capacité créative radicalement hors du commun.
Une capacité de concentration aussi, je crois, Christophe André. Il y a beaucoup de témoignages qui parlent de son immense, sa capacité à s'isoler complètement, à être totalement concentré dans la musique. Vous me parliez de quelques témoignages que vous avez lus à ce sujet, Christophe André.
Bien sûr, oui, bien sûr. Mais c'est, vous savez, une fois de plus, quand moi, j'ai pas la capacité de juger de ce qui fait qu'un musicien est très grand ou qu'il ne l'est pas. Mais bon, Beethoven, il n'y a quand même pas beaucoup de dissensus là-dessus. Et quand on regarde ce que disent les chercheurs en matière de créativité, effectivement, ils disent que ce n'est pas un seul trait de personnalité, la créativité, c'est l'accumulation, la congruence de tout un tas de traits, dont la capacité à la fois de se couper du monde, l'hyperproductivité, le fait d'être capable d'avoir son esprit qui part dans toutes les directions, avoir aussi la capacité d'intégrer tout ce qu'on a lu, écouté, absorbé, d'en faire une sorte de synthèse, d'être capable de le dépasser. Et donc, quand tous ces traits se rencontrent chez la même personne, alors on a Beethoven, entre autres.
On va écouter ensemble, Christophe André, une œuvre qui reflète davantage l'état de Beethoven pendant cette période douloureuse du testament d'Heiligenstadt dont on parlait tout à l'heure. Voici le premier mouvement de sa 17e sonate en ré mineur, cette sonate baptisée La Tempête.
Thank you.
Friedrich Gulda au piano dans ce premier mouvement de la 17e sonate en ré mineur de Beethoven, sa sonate baptisée La Tempête. Beethoven, le compositeur des contrastes, me disiez-vous hors antenne, Christophe André.
Oui, comme était contrastée sa propre vie émotionnelle. C'était Beethoven, apparemment, était ce qu'on appelle un hyperthymique en psychologie, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vivait pas ses émotions dans la demi-mesure. Il était à fond dans le désespoir, à fond dans l'espoir. Il était comme ça aussi dans sa vie quotidienne, apparemment, puisqu'il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Il pouvait être détestable et puis un peu plus tard, merveilleux, de générosité, d'altruisme, et à d'autres moments mesquin et tout ce qu'on voudra. Et sans doute que ça se retrouve dans sa musique. Alors, il ne faut pas faire de la psychologie de comptoir, évidemment. Il y avait d'autres éléments qui expliquaient sa créativité et son art de composer. Mais je pense qu'on ne peut pas, en étant soi-même quelqu'un qui est dans l'explosivité émotionnelle, une fois de plus positive ou négative, ne pas transmettre ça à certains de ses certaines de ses créations. Et c'est ce qui explique sans doute que parfois la musique de Beethoven est d'une tristesse infinie et parfois elle dégage une énergie et ce qu'on appelle un élan vital en psychiatrie, incroyable également.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Pas trop.
Au printemps de l'année 1825, Christophe André, Beethoven a 54 ans, il est en train de composer son 15e quatuor. Il tombe gravement malade, ça lui arrivait assez souvent. Il est incapable de travailler, son médecin le met à la diète, il lui conseille de s'installer à la campagne. Beethoven suit les conseils de son médecin, il s'installe à Baden. Il se remet à composer en notant sur ses feuilles d'esquisse à quel point il est heureux de retrouver sa force créatrice. C'est pour cela qu'il va décider d'adresser à Dieu un chant de reconnaissance pour le remercier d'être guéri, d'avoir le sentiment de reprendre des forces. Le résultat, ce sera le mouvement lent, son 15e quatuor intitulé « Chant de reconnaissance d'un convalescent à la divinité » dans le mode lydien. Beethoven avait visiblement le sens du sacré. Mais au-delà de cet aspect religieux, est-ce qu'une vie spirituelle dense est indispensable pour créer, Christophe André ?
Sans doute, mais après, il faut voir ce qu'on appelle la vie spirituelle. Là, Beethoven s'adresse à Dieu, comme aurait pu le faire Bach, enfin comme Bach le faisait en permanence d'ailleurs, puisqu'il pensait que tout ce qu'il avait créé était dû à la grâce divine. Mais on peut aussi avoir une spiritualité laïque. Au fond, la spiritualité, de manière générale, c'est l'attitude de l'esprit humain ou ce que perçoit l'esprit humain lorsqu'il est confronté à l'absolu, à l'infini, au mystère de la vie, de la mort. Et c'est évident que quand même, toutes ces grandes interrogations, tous ces grands mystères, hein, c'est pas des énigmes qui auraient une solution, ce sont des mystères qui n'ont pas de réponse accessible aux humains, juste des hypothèses. Beethoven était évidemment très sensible sensible à tout cela. Et c'était un homme des Lumières, mais c'était aussi un homme de l'époque romantique ou pré-romantique. Et il sentait
même dire
bien
de l'époque romantique.
Oui. Il percevait bien quand même.
Il est presque l'inventeur de cette époque romantique.
Voilà, il est celui qui a peut-être mis le romantisme sur les rails en matière musicale. Moi, je suis très ignare de tout ça, mais j'ai ce sentiment vu de l'extérieur.
Tout à fait. Christophe André, Beethoven avait un handicap. Il était sourd, un comble pour un compositeur. Comment vit-on ce handicap qu'est la surdité? Pensez-vous que cela, la composition ou sa foi a pu l'aider à surmonter ce handicap?
La surdité, c'est un handicap qui est méconnu, qui est dramatique. Par exemple, on sait que c'est un handicap qui est beaucoup plus terrible au quotidien que la cécité. Finalement, les personnes aveugles sont moins désocialisées que ne peuvent l'être les personnes sourdes ou avec des grands déficits auditifs comme celui qui a peu à peu touché Beethoven. Et c'est sans doute aussi une des explications de son caractère très compliqué, très mauvais, quoi. Voilà, il y a des mauvais caractères, tout simplement. Et c'est sans doute le handicap sensoriel, en tout cas, qui isole le plus. Alors, fort heureusement pour Beethoven, il disposait en lui de ressources infinies pour la créativité, pour la force créative. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien imaginer, au fond, ce qu'aurait été l'œuvre de Van Gogh s'il avait rencontré l'amour. Et je me demande ce qu'aurait pu être l'œuvre de Beethoven s'il n'avait pas eu cette surdité. Et moi, mon sentiment, mais c'est sans doute que je suis contaminé par la psychologie positive à laquelle je crois beaucoup, mon sentiment, c'est que ça aurait été encore plus fort, encore plus incroyable si toutes ces souffrances qui ont quand même dû lui pomper de l'énergie, comme on dit de façon un peu triviale. Lorsqu'on souffre, bien sûr, la souffrance peut nous stimuler, mais elle nous prend aussi du temps, elle nous paralyse, elle nous coûte. Et voilà, ça c'est de mes fantasmes d'un Beethoven qui aurait moins souffert et qui aurait encore plus créé de manière encore plus solaire peut-être.
Allegro appassionato final du 15e quatuor en la mineur de Beethoven joué par le quatuor Lassalle. Christophe André, quel rôle la musique joue pour vous? Quelles sont ses vertus?
Alors pour moi en tant que personne ou pour moi en tant que psychiatre?
Eh bien d'abord pour vous en tant que personne et puis ensuite...
Pour moi elle joue un rôle central, mais je crois que c'est d'une grande banalité de dire ça, qui ne fait pas une grande place à la musique dans sa vie aujourd'hui. Par contre alors ce en quoi je ne suis pas de mon époque sans doute, c'est que je ne supporte pas la musique âgée continue. Vous savez les gens qui écoutent toute la journée de la musique. Je vois ça chez mes neveux, chez mes enfants, etc. Ou ces personnes qui allument leur chaîne ou leurs appareils là, pour capter de la musique sur Internet en permanence. Alors ça me désole un petit peu. Je pense qu'on apprécie d'autant plus la musique qu'on a également du silence ou de l'absence de musique. Mais par contre, oui, moi j'ai un grand besoin de musique. Mais alors plutôt, comme on l'évoquait tout à l'heure, pas la musique romantique qui est trop sollicitante, trop remuante, trop exigeante sans doute, et je suis beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est antérieur, avec Bach, avec Haydn, avec notamment la viole de gambe, alors qu'il y a un effet totalement apaisant. Et alors la viole de gambe, c'est tous les compositeurs pour viole de gambe, évidemment, des gens... C'est le film a tiré de l'œuvre de Quignard, a remis en valeur énormément cet instrument. Eh bien, c'est un peu comme Beethoven d'ailleurs. C'est à la fois triste et tout en donnant envie de continuer à vivre malgré tout. Il y a quelque chose de très mystérieux. Et puis après, pour les humains, vous savez ce qu'on dit de la musique, ce que disent les anthropologues, mais vous le savez mieux que moi, c'est que c'est le langage universel parce que c'est le langage des émotions, c'est le langage qui parle au corps, qui parle au cette partie de notre cerveau qui n'a pas besoin des mots, qui a juste besoin de présence et d'attention au monde.
À quel moment de la journée vous écoutez de la musique, Christophe André ?
Plutôt en fin de journée. Je ne sais pas si c'est un grand intérêt, mais et c'est peut-être un signe, en tout cas, le moment où, comme vous dites, où on écoute de la musique, c'est le signe de ce qu'elle nous apporte. Je pense que lorsqu'on écoute de la musique le matin, c'est pour se mettre sans doute sur certains rails émotionnels. Et peut-être que ceux qui écoutent de la musique le soir ont besoin, au contraire, de se s'apaiser, de se remettre un peu de toutes les secousses de la journée. Il faudrait qu'on fasse un sondage un jour sur ça.
C'est intéressant. Je voudrais qu'on vienne à Beethoven, à ce compositeur qui était très sûr de lui, très sûr de son génie. Lorsque le prince Lichnowsky lui avait demandé de jouer pour les officiers français, Beethoven avait refusé, il avait quitté la demeure du prince. Il lui avait écrit ces mots en octobre 1806. « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. » Est-ce qu'il faut nécessairement avoir cette forme d'assurance, de confiance en soi, Christophe André, pour créer, pour avoir des idées telles que celles de Beethoven?
Alors, je ne crois pas ça. Je crois que c'est un mythe moderne, celui du créateur très confiant dans son génie qu'il va imposer envers et contre tous. C'est un mythe d'ailleurs que Beethoven a certainement contribué à créer dans la musique, puisque c'est le premier à avoir adopté cette attitude. Avant lui, les autres immenses génies dont on parlait tout à l'heure, Bach, Haydn, Mozart et tant d'autres, se vivaient comme des artisans. Ne se vivaient pas comme des génies, devaient bien sentir évidemment qu'ils avaient quelque chose que d'autres n'avaient pas, mais c'est d'ailleurs même pas si évident. Beethoven, lui, c'est un compositeur moderne, il est vraiment dans cette conviction de la modernité, qu'il faut que la personne du créateur soit très différente de celle des autres, qu'il faut qu'il s'affirme en tant qu'humain, et donc il est moins au service il est au service d'un idéal, Beethoven, mais en tout cas, il ne doit pas s'effacer. Ça, c'est très, très perceptible, à la fois dans sa correspondance et dans sa musique. Mais je pense qu'on peut aussi être un très grand créateur dans l'humilité, dans le doute. Peut-être que Beethoven ne pouvait pas se payer ce luxe de l'humilité et du doute, et que sa combativité s'enracinait sans doute dans la conscience de sa fragilité. Et comme il se sentait fragile, mais c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes qui ont un gros ego, comme Beethoven avait un gros ego, et c'était très bien d'ailleurs, une fois de plus, tant mieux pour nous. Évidemment, ces gros égos sont en race, les fondations de ces gros égos comportent des grandes failles, évidemment.
Un tel ego, donc, il avait quitté de rage la demeure du prince Lichnowsky, ce qui avait endommagé la partition de la sonate Appassionata, sa 23e sonate qui avait été endommagée par la pluie. On va écouter le premier mouvement de cette œuvre avec vous, Christophe André.
Thank you.
Premier mouvement de la 23e sonate pour piano en fa mineur, la sonate Appassionata de Beethoven, interprétée par Wilhelm Kempff. Le Van Beethoven a le plaisir d'accueillir Christophe André cet après-midi. Christophe André, vous soutenez la Fondation pour la recherche médicale. Quelle est l'importance de cette fondation? Quelle est sa mission? Et pourquoi il est important de soutenir ces chercheurs qui travaillent pour cette fondation?
Alors, la Fondation pour la recherche médicale, c'est une institution très très importante pour justement, comme son nom l'indique, la recherche médicale. Pour faire bref, elle a une vertu fondamentale, c'est qu'elle attire l'attention sur le fait que la recherche a besoin d'argent. Et vous savez, on n'est jamais en trop bonne santé. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah ben, je suis en trop bonne santé, ça ne marche pas comme ça ». Et la recherche, c'est pareil. On n'a jamais assez d'argent pour la recherche parce que c'est infini. Les besoins pour la prévention, pour le soin des maladies, pour l'exploration de nouvelles formes thérapeutiques qui étaient totalement impensables il y a encore 2-3 décennies. Et donc, la recherche a toujours besoin d'argent parce que la santé a toujours besoin d'être mieux connue, mieux promue et mieux rétabli. C'est aussi simple que ça.
On va revenir un peu au cas de notre ami Beethoven et à son enfance. On parlait de ses traumatismes d'enfance. Est-ce que ces traumatismes, cette violence qu'il a connue durant son enfance a pu décupler son envie de réussite, Christophe André?
Alors, dans son cas particulier, oui, probablement. Par contre, alors je voudrais qu'on précise que malheureusement, la plupart des enfants violentés, maltraités, ne vont pas arriver à surmonter tout ça. Ils vont au contraire, leurs personnalités vont être éteintes et leurs souffrances vont les étouffer et les amoindrir. Vous savez, on a des études qui montrent que finalement, il y aurait comme une sorte, alors c'est délicat de dire ça comme ça, mais d'optimum d'adversité. C'est-à-dire que si je suis un enfant surprotégé, choyé, qu'on élève dans la ouate, c'est pas forcément l'idéal. Je risque d'être vulnérable et en tout cas, ça peut ne pas me mobiliser pour exprimer le meilleur de moi-même. Mais malheureusement, à l'opposé, être un enfant connaissant des trop grandes carences, des trop grandes violences, de manière similaire, va entraver mon développement. Mon épanouissement et éventuellement ma capacité de créativité. Donc, il semble qu'il y ait une voie du milieu qui soit d'élever les enfants avec autant d'amour et autant de générosité que possible, mais sans leur éviter toute forme de souffrance. Il ne faut pas être obsédé par le fait d'empêcher absolument les enfants de connaître ce qu'est la souffrance, de savoir qu'elle existe, et puis s'il y a des deuils, s'il y a des choses difficiles autour d'eux, leur expliquer avec leurs mots. Et donc, voilà, je crois que c'est ça l'idéal. Alors, dans le cas de Beethoven, lui, il a eu plus que sa dose d'adversité, mais une fois de plus, c'était une personnalité tellement hors du commun qu'il a su en faire une source de motivation et de créativité.
Donc, il est d'autant plus à saluer, n'est-ce pas?
Oui, non, mais évidemment qu'on peut s'incliner, se prosterner devant lui, devant... Mais, et une fois de plus, parce que, vous savez, moi, j'admire beaucoup les gens qui, malgré leur souffrance, arrivent à atteindre leurs objectifs, arrivent à être généreux, arrivent à être créatifs, arrivent à rester tournés vers le désir de faire le bien. Et Beethoven avait le désir de faire le bien par son art, il avait le désir de léguer quelque chose et il y est merveilleusement parvenu.
Merci beaucoup Christophe André d'avoir passé cette heure en notre compagnie.
Merci à vous.
On se quitte avec le presto final du deuxième trio en sol majeur de Beethoven. Merci infiniment Christophe André. Thank you. Au final du deuxième trio avec piano de Beethoven interprété par le trio Wanderer, Vincent Koch au piano, Jean-Marc Philips Varjabédian au violon, Raphaël Pidou au violoncelle. Grand merci à toute l'équipe du Van Beethoven, Cécile Bonnet-Desclos pour la préparation, Louise Loubrieux pour la réalisation et Xavier Atto pour la prise de son.
À réécouter sur francemusique.fr.